Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les émotions alimentent les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Un texte de Rana Ali Adib, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir. Rana Ali Adib est doctorante et chercheuse publique 2024-2025 à l'Université Concordia. Elle étudie l'impact des constructions affectives sur la perception des fausses nouvelles sur les plateformes de réseaux sociaux. Imaginez-vous en train de faire défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous tombez sur une publication qui vous met en colère ou vous fait pleurer. Immédiatement, vous appuyez sur le bouton de partage. Plus tard, vous découvrez que ce que vous avez partagé était une fausse nouvelle. Comment vos émotions ont-elles pris le dessus? Ce scénario se répète quotidiennement pour plusieurs individus différents, révélant une faille critique dans notre lutte contre les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. La récente tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump lors d'un rassemblement en Pennsylvanie rappelle de manière frappante comment les gens se tournent vers les réseaux sociaux en temps de crise. Lorsque la nouvelle est tombée, comme beaucoup d'autres, je me suis tourné vers les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour. En quelques minutes, j'ai vu un tweet affirmant que l'assassinat avait été mis en scène par Trump lui-même. Un autre tweet indiquait qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur. Peu après, un tweet affirmait que Joe Biden avait ordonné l'assassinat. Chacun de ces messages s'est propagé comme une traînée de poudre, alimentant la confusion et la désinformation jusqu'à ce que la vérité apparaisse finalement. Nos efforts pour combattre les fausses nouvelles échouent en partie parce qu'ils négligent le rôle des émotions des utilisateurs qui souvent prennent le pas sur leur raisonnement. Une étude de 2020 publiée dans la revue Cognitive Research Principles and Implications a révélé que plus les gens dépendaient de leurs émotions plutôt que de leur raison, plus ils percevaient les histoires fausses comme étant exactes. En effet, lorsque des émotions comme la peur, la colère ou la joie sont déclenchées, nos capacités de pensée critique sont compromises, nous rendant plus susceptibles de croire à la désinformation. Les émotions ont également un impact sur le partage des fausses nouvelles. Dans un article de CBC, on a qualifié les émotions de « drogue puissante » après avoir observé que les personnes ayant partagé une histoire fausse émotionnellement provocante sur les réseaux sociaux, soit l'enlèvement d'un enfant dans un parc d'amusement ontarien, n'était qu'à environ 0,34 secondes de découvrir les faits vérifiés sur Google. Plutôt que de faire cette courte recherche, elles s'en sont tenues à leur indignation. Difficile à freiner. Les sceptiques pourraient affirmer que l'amélioration de la vérification des faits et la promotion de l'éducation aux médias peuvent efficacement contrer les fausses nouvelles. Bien que ces stratégies cognitives soient nécessaires, elles n'abordent qu'une partie du problème. Une étude publiée dans la revue Science a révélé que, même lorsqu'ils voient des corrections vérifiées, les utilisateurs des réseaux sociaux s'accrochent souvent à leurs croyances si la désinformation s'accorde avec leurs émotions et leurs préjugés existants. Nous n'avons pas besoin de remonter loin pour rappeler la popularité des théories de conspiration générées pendant et après la pandémie de COVID-19. Malgré des efforts rigoureux de vérification des faits, les fausses informations émotionnellement chargées sur les remèdes, sur la prévention et sur les origines du virus ont continué à prospérer sur les réseaux sociaux. Il n'est donc pas surprenant que les méthodes d'intervention existantes, tels que les vérificateurs de faits, qui supposent que les utilisateurs sont purement cognitifs, aient eu un succès limité pour améliorer la capacité des utilisateurs à discerner les fausses nouvelles des vraies. La tentative d'assassinat contre Donald Trump révèle un problème important. La rapidité et la portée de la désinformation sur les réseaux sociaux. En cette ère numérique, les faux récits peuvent se propager plus rapidement que jamais, influençant la perception du public et semant la discorde. Pour contrer cela, nous avons besoin d'algorithmes émotionnellement intelligents capables de détecter et de déprioriser des contenus manipulateurs. Les entreprises technologiques, en collaboration avec des experts en intelligence artificielle, devraient diriger le développement et la mise en œuvre de ces outils. Étant donné la réticence des plateformes à s'autoréguler, il est peut-être nécessaire que les gouvernements interviennent et imposent ces changements par la législation. De plus, les campagnes éducatives devraient se concentrer non seulement sur la pensée critique, mais aussi sur la conscience émotionnelle. En reconnaissant comment nos émotions peuvent être manipulées, nous pouvons mieux naviguer parmi les informations que nous lisons en ligne. Notre incapacité à freiner la propagation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux indique un oubli, la négligence des facteurs émotionnels. En reconnaissant le rôle des émotions dans la perception des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, nous pouvons développer des méthodes efficaces pour combattre la désinformation et promouvoir une société plus informée et résiliente. Avec les élections américaines à venir, comprendre le rôle des fausses nouvelles dans la formation de l'opinion publique n'a jamais été aussi crucial. À mesure que notre paysage numérique évolue, nos stratégies pour protéger la vérité doivent également évoluer. C'était « Comment les émotions alimentent les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », un texte de Rana Ali Adib, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir.
Pourquoi septembre n'est-il pas le septième mois de l'année? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 juin 2024, dans La Presse. Un lecteur, Gilles Degagné, demande « Pourquoi utilise-t-on septembre, d'après le nombre 7, octobre 8, novembre 9 et décembre 10 ?» alors que nous sommes au 9e, 10e, 11e et 12e mois de l'année. Parce que le calendrier des Romains commençait au départ le 1er mars. Les Romains faisaient commencer l'année le 1er mars, explique Dwayne Meissner, classiciste à l'Université de Regina, qui a publié une étude sur le sujet en 2009 dans la revue Past Imperfect. C'est un peu comme les premières horloges. Les heures étaient comptées du matin jusqu'au soir, sans tenir compte de la nuit. Les premiers Romains commençaient l'année quand le printemps revenait à Rome et ne tenaient pas compte de l'hiver. Septembre, octobre, novembre et décembre étaient donc alors les 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année. D'ailleurs, juillet s'appelait Quintus et août Sextus. Juillet a finalement été nommé en l'honneur de Jules César, mort en 44 avant Jésus-Christ, et août en l'honneur d'Auguste, qui a transformé la République romaine en empire en 27 avant Jésus-Christ. Cette habitude provenait probablement des Étrusques, selon Meissner. Il s'agit d'un peuple qui contrôlait le centre nord de l'Italie au 7e et 6e siècle avant notre ère. Son écriture n'a pas encore pu être déchiffrée, ce qui limite les connaissances à son sujet, y compris à propos de son calendrier. Peu avant la République romaine, 509 avant Jésus-Christ, les mois de janvier et février ont été ajoutés. Pour respecter le calendrier solaire, nous apprend Dwayne Meissner, avec deux équinoxes et deux solstices, il fallait ajouter un mois intercalaire après décembre. Rapidement, c'est devenu évident qu'il fallait 12 mois, et non 10, et donc ajouter deux mois après la fin de l'année en décembre. Les Romains ont toutefois tenu à conserver les fêtes de début de mars, leur ancien début d'année. Alors, ils ont fait un mois de février à 28 jours. Les Romains tenaient énormément aux traditions de leurs ancêtres. mos maiorum en latin. Année bissextile. Ce calendrier de 365 jours a tenu le coup jusqu'à Jules César. Il a consulté des astronomes grecs et égyptiens et il a décidé de réconcilier le calendrier avec l'année solaire, dit M. Meissner. L'année 46 avant Jésus-Christ a duré 445 jours. Et après, il y a eu les années bissextiles avec 29 jours en février. Mais encore là, César a fait très attention de ne pas déranger le calendrier liturgique avec ses célébrations du début mars. César a justement été assassiné un 15 mars, une fête dédiée au dieu du printemps et de la guerre, Mars. Ensuite, il a fallu attendre le calendrier grégorien du pape Grégoire XIII en 1582 pour avoir une nouvelle modification au calendrier romain. Le calendrier julien de Jules César n'était pas exactement synchronisé avec le calendrier solaire. Le calendrier grégorien a notamment introduit des années non bissextiles lors des années multiples de 100 non divisibles par 400, donc 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, et ainsi de suite. En savoir plus, 11. Le nombre de jours soustraits à octobre 1582 par la réforme du calendrier grégorien pour l'ajuster au calendrier solaire. C'était « Pourquoi septembre n'est-il pas le septième mois de l'année ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 juin 2024 dans la presse.
L'homme qui plante des arbres rares du Québec. Un texte d'André Laroche, paru le 13 juillet 2024 dans la presse. Autrefois abondante, une dizaine d'essences d'arbres indigènes du Québec sont aujourd'hui en voie d'extinction. Que faire pour préserver ce patrimoine forestier? Plantez ces majestueux feuillus sur votre propriété, même en pleine ville, répond le géographe botaniste Charles Lucier. Il y a péril en la demeure, affirme ce consultant en agroforesterie qui se consacre, depuis 20 ans, à réintroduire des arbres rares sur des parcelles agricoles de la Montérégie et du centre du Québec. C'est là qu'ils se trouvaient à l'époque, avant que l'homme blanc débarque en Amérique. De grandes forêts recouvraient, en effet, tout le sud du Québec, avant l'arrivée des Européens. Du lac Saint-Pierre jusqu'au lac Champlain, elles regorgeaient de chênes blancs, de micocouliers, d'érables noirs et d'autres essences aujourd'hui presque disparues, victimes de leurs vertus naturelles. Ces forêts furent écrémées en moins d'un siècle et demi, entre 1740 et 1880, explique le géographe. Les chênes blancs, notamment, ont pris la direction des chantiers navals britanniques. Ils ont servi à construire la flotte anglaise. Leur bois était recherché pour sa souplesse et sa solidité. Leur flexion peut atteindre 90 degrés. L'orme de Thomas et le carrier ovale, eux, étaient prisés pour leur bois très dense, généré par une croissance très lente. L'activité forestière pour l'industrie du meuble, du plaquage et des planchers est en grande partie responsable de la diminution de ces essences. Le déboisement pour l'agriculture a aussi joué un rôle dans cette déforestation, souligne M. Lucier. Biodiversité en péril. Outre la perte d'essences compagnes bénéfiques, notamment aux érablières, La quasi-disparition de ces arbres a dégarni le garde-manger d'une faune qui se nourrissait de leurs noix, drupes et samars, déplore-t-il. Aujourd'hui, 8 essences indigènes du Québec sont considérées comme rares ou très rares, comme le genévrier de Virginie, le pin rigide et l'orme de Thomas. Elles doivent souvent leur survie à la protection que leur assurent des réserves écologiques gouvernementales. Le Québec ne compterait plus que 2500 tiges d'ormes de Thomas, dont le bois est dur comme du béton, dit M. Lucier. Décidé à ne pas voir s'éteindre ses essences, Charles Lucier a pris le taureau par les cornes. Depuis 20 ans, avec la collaboration d'agriculteurs, il s'échine à faire croître ses essences aux abords des cours d'eau, en bout de champ ou en haies brise-vent, dans l'espoir de les voir se propager et se multiplier. Il évalue avoir planté 60 000 arbres depuis le début du millénaire. Ce n'est pas beaucoup quand on pense qu'un planteur peut planter jusqu'à 4 000 arbres par jour. Ce que je fais, moi, c'est du jardinage. Je les plante délicatement, et quand je pars, l'arbre a l'air d'un chevalier du Moyen Âge dans sa cotte de maille, dit-il en rigolant. S'épanouir en ville. La préservation de ces essences rares n'est pas l'apanage des agriculteurs. Les propriétaires de maisons unifamiliales peuvent aussi jouer un rôle, croit Charles Lucier, puisque ces arbres peuvent très bien s'épanouir en ville. Un terrain de 625 pieds carrés, 25 pieds par 25 pieds, suffit à rendre heureux ces arbres qui peuvent atteindre 75 pieds de hauteur. Le Québec se trouve dans le nord de l'aire de répartition de ces essences qui descend parfois jusqu'au Texas. La hausse des températures devrait maintenir un climat favorable à leur croissance, croit le géographe. La grande région de Montréal, avec son sol franc, est le territoire naturel de ces essences-là. La protection contre les vents, offerte par les maisons et les bâtiments, leur procure en plus un bel habitat de croissance, fait-il remarquer. Il en veut pour preuve les grands micocouliers qui poussaient autour du parc Laurier à l'époque où il habitait dans le plateau Mont-Royal. J'espère qu'ils y sont encore. Si les propriétaires veulent participer à l'effort de guerre, dit-il, je leur suggère d'enlever leurs bouleaux gris et leurs érables à giguère. Ce sont des espèces envahissantes. Et de planter quelques beaux chênes bicolores. Ces arbres-là leur coûteront environ 75 ou 100 $ pièce. Mais ils augmenteront la valeur foncière de leur résidence parce que les arbres prennent de plus en plus leur place dans nos sociétés. Charles Lucier se veut en effet optimiste face à l'avenir. La situation serait catastrophique dans 50 ans si on ne faisait rien maintenant. Mais je vois plein de gens qui s'intéressent à la préservation de ces essences indigènes. J'ai de l'espoir, conclut-il. Suggestion pour la maison. Le carrier ovale. Cet arbre est un feuillu à l'écorce grisâtre qui s'effiloche en de longues bandes verticales. Il tire son nom de ses feuilles en forme d'ovale. Sa croissance est lente au cours de ses 7 premières années avant de s'accélérer par la suite. À maturité, il atteint une hauteur de 25 mètres. Le carrier ovale est parfait pour les grandes surfaces. Il aime surtout les sols riches et humides et s'épanouit en plein soleil. Chêne bicolore. Cette espèce très rare de feuillus est appréciée pour sa stature imposante et sa longévité. Son espérance de vie dépasse les 300 ans. Il tire son nom de ses feuilles vertes sur leur face supérieure et blanchâtre sur leur face inférieure. Il croît à une vitesse moyenne pour atteindre une hauteur de 22 mètres. Il préfère les sols humides, bien drainés et légèrement acides. Mais il est également adaptable à diverses conditions de sol. Sa capacité à résister aux inondations occasionnelles le rend bien adapté aux bandes riveraines et aux milieux humides. Chêne blanc. Comme le chêne bicolore, cette essence de feuillu est très appréciée pour sa stature imposante et sa longévité. Certains spécimens vivent plus de 500 ans. Plus grand que le bicolore, il peut atteindre 28 mètres de hauteur. Il tire son nom de la couleur de son bois, une fois travaillé. Ses feuilles prennent une couleur rouge à l'automne. Il aime les terres équilibrées en humidité et en drainage. Il est tolérant à l'ombre, mais préfère un ensoleillement abondant. Micocoulier occidental. Ce feuillu de 18 mètres se distingue par une silhouette élancée et un feuillage dense. Il est réputé robuste et peu exigeant en matière de soins. Ses petites fleurs verdâtres au printemps jouent un rôle crucial dans l'attraction des pollinisateurs. Il produit des petits fruits ronds et sucrés qui attirent la faune locale. D'une grande tolérance, il apprécie surtout les sols riches et bien drainés. Il s'adapte à la fois au plein soleil et à la mi-ombre. C'était l'homme qui plante des arbres rares du Québec. Un texte d'André Laroche, paru le 13 juillet 2024 dans La Presse.
L'épave du navire d'un explorateur disparu depuis 60 ans, découverte au Labrador. Un texte de Radio-Canada avec les informations de l'Heure de Pointe, Acadie et de l'Agence France-Presse, paru le 12 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. L'épave du navire du célèbre explorateur polaire britannique Ernest Shackleton a été retrouvée au large de Terre-Neuve et Labrador plus de 60 ans après avoir coulé. Gisant à 390 mètres de profondeur, le Quest est un navire très important d'un point de vue historique, a déclaré John Geiger, directeur général de la Société géographique royale du Canada, responsable de l'expédition. Ernest Shackleton est entré dans la légende des expéditions polaires grâce à l'épopée qu'il a entreprise avec ses 27 compagnons après le naufrage de son navire, l'Endurance, dans les mers glacées de l'Antarctique en 1915. Pendant des mois, l'équipage a survécu sur la banquise puis sur une île glacée de l'Antarctique. Ils ont été sauvés grâce à l'audacieux périple de Shackleton, parti dans un canot, avec quelques compagnons pour chercher des secours. La découverte du Quest marque l'un des derniers chapitres de l'histoire extraordinaire de Sir Ernest Shackleton, a précisé John Geiger lors d'une conférence de presse, ajoutant que le bateau à voile et à vapeur avait été retrouvé dimanche à l'aide d'un sonar. Le navire sur lequel Ernest Shackleton est mort en 1922 lors d'une expédition a par la suite été utilisé pour d'autres expéditions dans l'Arctique, pour des sauvetages, et a même été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand il a sombré en 1962, le Quest appartenait à des Norvégiens qui l'utilisaient pour la chasse aux phoques. La découverte de l'épave a été un moment plus qu'incroyable, raconte le directeur adjoint des opérations et chercheur principal de l'expédition Shackleton Quest, Antoine Normandin. C'était toute une épopée pour se rendre sur le site de l'épave.
On a eu plusieurs enjeux mécaniques, et lorsque l'épave est apparue sur le sonar, je crois que ça faisait 36 heures que je n'avais pas dormi, raconte-t-il. Lorsque l'image est apparue, on savait immédiatement qu'on avait quelque chose qui n'était pas une pierre ou un élément naturel. J'ai été voir David Mearns, qui a participé aux recherches, et je lui ai dit « Je crois qu'on l'a », poursuit-il. Sur l'imagerie du sonar, le navire apparaît largement intact, reposant à la verticale sur sa quille. L'un de ses deux mâts est cassé et repose sur le fond marin. L'épave correspondait à ce que l'équipe savait du naufrage et se trouvait au bon endroit. Aucune épave de ce type n'avait été répertoriée dans les environs. Cela nous permet donc d'affirmer en toute confiance qu'il s'agit bien du Quest, a expliqué David Mearns. 2024, une année significative. Les explorateurs préparaient cette expédition depuis longtemps. Le travail en amont a duré 6 ans, la pandémie ayant compliqué les choses. Au cours de la dernière année, le projet est passé à la vitesse supérieure. On a trouvé un navire, les fonds nécessaires, et on a pu faire la recherche nécessaire et impliquer les bonnes personnes, dit Antoine Normandin. Tout concordait pour qu'on puisse aller découvrir cette épave-là en juin 2024. Découvrir une épave comme cela, ça nous permet de vivre l'histoire, ajoute-t-il. L'année 2024 marque d'ailleurs le 150e anniversaire de naissance d'Ernest Shackleton. Sa petite-fille, Alexandra Shackleton, était d'ailleurs l'une des mécènes de l'expédition. On a parlé à Alexandra Shackleton lorsque l'on était en haute mer pour lui annoncer la nouvelle et... telle qu'elle a mentionné. C'est comme si ça fermait la boucle, dit Antoine Normandin. Et pour les chercheurs enthousiastes de leur découverte, le travail est loin d'être fini. Antoine Normandin confirme qu'une autre expédition est prévue plus tard cette année pour photographier et documenter davantage l'épave. C'était l'épave du navire d'un explorateur disparu depuis 60 ans, découverte au Labrador. Un texte de Radio-Canada, avec les informations de l'Heure de Pointe Acadie et de l'Agence France-Presse, paru le 12 juin 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.